3 à 246. Chronique de la Maison de la Mémoire.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un événement qui s'est déroulé en 1903 et qu'on a retrouvé dans les journaux, dans le journal qui s'appelait L'Écho de Sainte-Afrique, et qui est la grève des gantiers de Sainte-Afrique. Tout d'abord, ce n'est pas la première grève qui a eu lieu à Sainte-Afrique, parce que dans les diverses archives, on en trouve la première qu'on ait trouvée, c'est 1847, alors même que c'était interdit, et où ils appellent ça coalition. Et après, tout le reste du 19e siècle, on en trouve encore. Mais ce qui est un peu spécial avec celle-ci, donc celle des gantiers en 1903, c'est la première que l'on peut suivre au travers des journaux successifs, des hebdomadaires chaque semaine. Il y a un petit article sur cette grève-là. Donc c'est ce qui nous a intéressés. Et donc grâce à ces journaux, donc on peut suivre toute la grève. Donc depuis le début de la grève, qui apparaît dans le numéro du 30 mai, où le journaliste en fait informe la population qu'il y a un conflit entre les patrons et les ouvriers gantiers de Sainte-Afrique. Il dit qu'il y a, donc c'est la grève générale, mais qu'a priori ça ne va pas durer longtemps. Dans cet article, il nous apprend qui sont les grévistes. Alors ce sont les ouvriers gantiers, mais c'est des ouvriers assez spécialisés, ce sont ceux qui sont chargés de découper les pots, pour découper les pièces dans les pots qui ensuite seront cousues pour faire des gants. Quant au patron, on apprend dans un rapport du préfet, qui sera daté de novembre 1903, qu'ils sont au nombre de 5 sur les 6 que compte la ville. Et enfin, le déclenchement de la grève, le journal nous apprend que c'est à cause de la mise en place d'un nouveau tarif pour la coupe des gants. Et en fait, on a retrouvé une lettre, un rapport plutôt du commissaire de police de Sainte-Afrique, qui est daté donc du 26 mai, c'est-à-dire 4 jours avant le journal, et qui en fait est un peu plus explicite, puisqu'il nous dit que les patrons s'étaient réunis quelques jours avant et s'étaient mis d'accord pour mettre en place un tarif uniforme pour la coupe des gants à la douzaine, parce qu'en fait ils étaient payés à la douzaine de gants qui étaient découpés. Et selon la catégorie de gants, donc il y avait vraisemblablement des gants pour hommes, des gants pour femmes, diverses utilisations, il y avait une baisse de 25 à 50 centimes par douzaine. Ça pourrait sembler pas beaucoup, mais en fait, quand on regarde le rapport, il précise aussi que le salaire journalier d'un gantier, c'est 2,50 francs. Donc pour la catégorie à 50 centimes, ça fait quand même une sacrée baisse. Et ensuite, petit à petit, en passant les journaux, donc qui sont publiés toutes les semaines, on va suivre la grève. Alors dans l'article du 13 juin, donc 15 jours après, on découvre un petit peu l'organisation de la grève et des grévistes qui ont formé un comité. Le comité se charge d'organiser le mouvement, mais dès le début, il pourvoit aussi aux besoins des grévistes. Dans l'article, il précise que, par exemple, le comité va organiser la distribution des aides qu'ils ont reçues des différentes villes gantières du pays et du département, et il précise notamment de Millau et Grenoble. Parce que la ganterie et le cuir en général, c'est des activités où les travailleurs se sont très vite organisés, dès la moitié du 19e, on va dire, pour ensemble on est plus fort et on peut se soutenir. Donc ça a commencé avec les mutuelles, etc., puis les syndicats dès qu'ils ont pu. Et donc du coup, la solidarité, elle se fait au niveau départemental, mais même national. Donc dans ce même article du 13 juin, on commence à percevoir des conséquences de la grève qu'on n'imaginerait pas tellement. Parce qu'il précise de façon assez laconique que les ouvrières qui sont employées dans les ateliers sont encore occupées, mais elles vont bientôt être au chômage, quoi, sans travail. Et en fait, c'est le rapport du préfet, quelques mois plus tard, qui nous fait prendre la mesure de cette petite info. C'est qu'il y avait seulement 67 ouvriers en grève, enfin seulement, c'est déjà pas mal, alors que la ville en comptait 78. Mais en fait, de leur travail à eux, dépend le travail de 200 à 300 couturières, brodeuses ou celles qui mettaient les boutons. Et donc forcément, s'il n'y a plus de gants découpés, elles auront plus de travail. Donc on comprend l'angoisse un petit peu, tant des journalistes que celle qui transparaît auprès de la population, et même des autorités, puisque dans cet article-là, le journaliste nous apprend que le juge de paix, donc celui qui s'occupe de la petite justice, on va dire, va intervenir pour assurer la médiation entre les parties, entre patrons et ouvriers, pour essayer de trouver une solution au conflit. Ensuite, dans les numéros qui vont se suivre, petit à petit, on va s'orienter vers la sortie de la grève, mais on va aussi découvrir la stratégie des ouvriers. Puisque dans le journal du 20 juin, donc presque déjà un mois de grève, le juge de paix s'est déclaré incompétent. Donc c'est aux ouvriers, aux patrons de se débrouiller pour trouver une solution. Et pour cela, les ouvriers ils peuvent compter sur l'appui et l'aide d'un syndicat qu'ils ont créé, qui est l'Union syndicale des ouvriers gantiers de Sainte-Afrique, qui dès le début de la grève apparemment joue son rôle de catalyseur et puis d'organisateur. Alors même qu'en fait, donc là on est en juin 1903, et le syndicat n'avait été créé qu'en juillet 1902. Et malgré tout, il reste efficace, et ce ne serait pas idiot de penser qu'ils ont pu profiter aussi de toute l'expérience des différents syndicats qu'il pouvait y avoir à Millau ou dans les autres villes avec lesquelles ils étaient forcément en relation étroite. Pour compléter ces infos, le rapport du commissaire de police, qui a été fait le 26 mai, est assez intéressant parce qu'on y apprend en fait comment tout s'est passé. C'est-à-dire que, donc on était le 26 mai, ça faisait déjà quelques jours que les patrons avaient affiché dans les ateliers le nouveau tarif. Les ouvriers s'y étaient opposés, ils s'étaient réunis. Ils avaient élaboré leur propre tarif à eux, avec déjà l'idée qu'ils en demandaient un petit peu plus. Mais c'est écrit mot pour mot, seulement pour se garder une marge de manœuvre dans la négociation avec les patrons, et du coup s'assurer à minima du maintien des tarifs anciens, quoi. Et du coup, ils ont désigné 5 personnes pour aller dans chacun des 5 ateliers, négocier avec les patrons, et ensuite continuer à travailler jusqu'au 30 mai, donc la date du premier journal, pour faire un rapport des discussions et savoir quelle suite à donner à leur revendication, on va dire. Et du coup, comme les négociations ont dû apparemment échouer, ben, ils ont décidé de se mettre en grève, comme le dit le tout premier journal. Mais malgré tout, la stratégie qu'ils avaient élaborée, donc d'un tarif augmenté, ça va assez rapidement porter ses fruits, dans le bon sens pour eux, parce que dans le numéro du 27 juin, un mois après le début de la grève, on apprend qu'il y a un des patrons qui a accepté ce nouveau tarif. Et alors, un, c'est pas beaucoup, mais ce qui est intéressant pour eux, c'est que c'est un des deux plus importants de la ville. Et alors là, du coup, le comité donc de la grève envisage de reprendre le travail. Et puis finalement, après discussion tous ensemble, ils décident de ne pas reprendre le travail, avec pour argument de dire que si les patrons se sont réunis entre eux pour élaborer un nouveau tarif diminué, eh ben ils ne reprendront pas le travail tant que les mêmes patrons ne se seront pas réunis entre eux pour adopter le nouveau tarif. Donc la grève continue. Ce qui montre bien leur détermination, malgré les difficultés que pouvait causer la grève pour eux, parce que du coup c'est autant de salaires de perdu, et on a bien vu que le salaire n'était déjà pas énorme. Et pourtant, dans les articles après qui vont suivre, on va voir apparaître des moyens pour surmonter toutes ces difficultés. On le voit notamment dans le numéro de juillet, où on apprend que en fait, les ouvriers gantiers de Millau ont envoyé des pots à Sainte-Afrique pour permettre aux gens de travailler, mais de travailler pour ceux de Millau, hein, pour découper les pots, pour les renvoyer à Millau. Et que d'autres ont été employés sur un chantier communal. Ça se faisait très régulièrement quand il y avait des chômages saisonniers. On essayait de trouver du travail aux chômeurs, et souvent c'était l'entretien des chemins, des routes, etc. Ensuite, donc on était en début juillet, à la fin du mois, on voit une autre action du comité apparaître, mais qui va aussi démontrer leur détermination et leur solidarité, c'est que le comité a autorisé les ouvriers à reprendre le travail dans l'atelier du patron qui a accepté leur tarif, mais à deux conditions. La première, c'est qu'ils doivent employer 10 de leurs collègues, tour à tour, et ensuite que le produit de leur travail devra être reversé à la caisse commune et ensuite partagé équitablement entre tous les grévistes. Malgré tout, on voit que la grève continue, notamment le 25 juillet, où on apprend qu'il y a eu ce qu'ils appellent un défilé dans les rues de la ville, donc une manifestation, où en fait donc les gantiers ont défilé en chantant l'International. Le journaliste lui-même le dit, il a été surpris, lui, mais aussi toute la population, par toute la cohésion et la solidarité dont faisaient preuve ces ouvriers, ce qu'on a vu nous transparaître, mais qui apparemment là était pour eux assez flagrant. Ensuite, on en arrive donc au mois d'août, où le 1er du mois d'août, on apprend qu'un second patron a accepté le nouveau tarif des ouvriers. Et là aussi, donc ça fait toujours que 2 sur 5, mais le second, c'est le second plus important de la ville, donc les deux plus gros patrons ont accepté. Là, par contre, le comité a voté et autorisé la reprise du travail dans son atelier. Malgré tout, la grève continue, puisqu'ils informent aussi que le comité va organiser une nouvelle distribution d'aide. Et on apprend aussi, d'ailleurs, preuve encore une fois de leur détermination, que en fait, 6 ouvriers avaient rompu leur accord avec le comité et avaient frauduleusement repris le travail, et du coup, ils ont été un peu mis à part du comité. Donc la grève continue, et pourtant, en fait, c'est le dernier numéro qui parle de cette grève. Par la suite, on n'en entend plus parler, comme si elle était terminée. Mais en fait, si on reprend le rapport du préfet et celui du commissaire de police, on apprend que la grève, elle a duré encore un mois, jusqu'au 6 septembre. Donc ces deux rapports, ça met en évidence donc les vérités, mais aussi les silences des journaux, enfin des articles de journaux. Parce que tout d'abord, ils expliquent que le gang, et c'est là on comprend aussi pourquoi il y a eu autant d'articles et apparemment pourquoi la population était à ce point inquiète, c'est qu'à ce moment-là, l'industrie du gang et du cuir, c'était une des principales de la ville. Le textile était déjà, qui avait été important un siècle avant, commençait à s'essouffler. Puis on l'a dit au tout début, ça représentait quand même plusieurs centaines d'emplois. Par contre, ce que retranscrit bien le journal, c'est l'importance du syndicat. Et comme le dit le préfet d'ailleurs, c'est lui qui a été l'âme du mouvement, qui en a assuré l'organisation, la cohésion, au point que la population, comme on l'a dit, a été frappée par cette détermination et cette solidarité. Que du coup, on l'a vu, l'efficacité dans la négociation, etc., elle a été couronnée de succès. D'autant plus qu'au départ, on craignait une baisse de salaire, et puis en fait, en sortie de grève, les ouvriers ont gagné 25 centimes de salaire en plus journalier. Le préfet précise aussi que grâce à ce succès-là, alors que le syndicat était tout jeune, puisqu'il avait juste un an, les adhésions ont augmenté, et qu'a priori, ça va pas se terminer, ce mouvement-là va pas se terminer comme ça, quoi. Donc en conclusion, cet épisode-là, bon, il est intéressant parce que c'est à la fois un mouvement qui est assez emblématique de son époque, parce que quelques années après, je pense en 1911, il y aura une grande grève à Millau, pareil des Gantiers, mais avec plus d'ampleur et de moyens. Mais c'est aussi un bon exemple d'un petit climat social local dans une des industries les plus importantes pour notre région. Et en même temps, ça révèle aussi l'importance de croiser les sources, de les diversifier, de ne pas s'en tenir en l'occurrence qu'au journal, parce que sinon on serait passé à côté de pas mal de vérités qui ne sont pas dites dans les journaux. Et c'est quelque chose que l'on retrouvera aussi à d'autres occasions par rapport à d'autres événements.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.